Merci, Monsieur Dagen, puisque nous nous appelons pas encore par nos prénoms après toutes ces années. Je prends donc la parole pour parler à mon tour de cette exposition 1917, et je voudrais commencer par remercier en mon nom et en celui de Laurent Lebon, d'abord vous, à plusieurs titres, et notamment donc au titre de directeur de ce colloque et de conseiller scientifique de l'exposition 1917. Et je remercie également Monsieur Gross, Monsieur Toscano, pour cette invitation, ainsi que Émilie Maume et Pascal Chandel, avec lesquels nous avons été en contact ces derniers temps. C'est un grand honneur d'intervenir ici et de venir évoquer ce projet d'exposition qui a été une grande aventure humaine, un projet qui a mobilisé beaucoup de moyens humains, techniques, mobilisé beaucoup d'énergie pour réunir l'ensemble de ces œuvres et cet objet exposition. Le titre du colloque, ce qu'exposer veut dire, personnellement, je le trouve très, très beau, et je vais essayer de répondre à cette interrogation de savoir ce qu'on a voulu dire avec 1917 et comment nous avons procédé pour arriver à tenir ce propos d'exposition. Évidemment, nous ne sommes peut-être pas les mieux placés pour faire une présentation objective de ce projet, mais ce sera un point de vue intérieur, une vision de la manière dont nous l'avons pensé, conçu et mis en œuvre. Pour éviter toute forme d'auto-célébration ici, je commencerai par relever trois critiques qui ont été faites à cette exposition, qui a fait l'objet de nombreux articles dans la presse française et internationale. Trois critiques négatives, ou en tout cas qui méritent peut-être discussion a posteriori. La première critique qui a été faite à l'exposition, c'est celle d'une quantité peut-être excessive d'objets présentés. L'idée d'une exposition océan que nous avons revendiquée. J'en parlerai plus tard, et Laurent en parlera également de cette question de la quantité des objets présentés dans l'exposition. La deuxième remarque qui a été faite était que peut-être certains sujets, notamment certains événements historiques, avaient été insuffisamment traités dans l'exposition. Là aussi, je tenterai d'apporter des éléments à cette réflexion. Et enfin, concernant le catalogue, il a été noté l'absence de notices d'œuvres dans ce catalogue, et l'absence également de reproduction systématique des œuvres exposées. Là aussi, j'y reviendrai. Voilà. Pour commencer, pourquoi exposer 1917 ? Pourquoi cette exposition a-t-elle existé ? Il faut évidemment toujours un point de départ. Il est ici. C'est donc le rideau de scène du ballet Parade, peint par Pablo Picasso en 1917. C'est une œuvre qui est conservée au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, qui, du fait de son format monumental de 10,50 m de haut par 16,40 m de large, ne peut plus être présenté dans les murs du Centre Pompidou à Paris. Et le Centre Pompidou-Metz avait dans son programme architectural et dans son ADN initial cette capacité à présenter des œuvres de très grand format, et notamment des œuvres conservées par le Centre Pompidou. Ainsi, cette œuvre était attendue, et plutôt que de la présenter dans l'exposition inaugurale, donc chef-d'œuvre, Laurent Lebon a proposé de la garder pour en faire le point de départ d'un projet ultérieur, et il a eu cette idée originale de prendre la date de création comme élément déterminant de l'œuvre d'art, mais aussi de l'exposition, considérant que 1917 pouvait constituer en soi le sujet de cette exposition. Je profite donc de cet instant pour remercier très sincèrement Laurent d'avoir eu cette idée, que je trouve très bonne, et de m'avoir confié une partie du commissariat de cette exposition, d'avoir partagé avec moi, d'avoir donné l'impulsion nécessaire pour que ce projet un peu fou puisse voir le jour, et d'avoir sans cesse poussé le projet et l'équipe qu'il portait à aller jusqu'au bout de cette idée un peu folle de vouloir raconter une année dans 2300 mètres carrés. À partir de cette œuvre est donc née cette idée de raconter 1917, considérant donc que le Centre Pompidou-Metz devait être un laboratoire pour tester des formes d'exposition un peu atypiques, et notamment l'exposition sur une année. Évidemment, ceci étant dit, il a fallu déterminer comment exposer 1917. Le premier enjeu a été de se fixer un cadre de réflexion avec un espace, ou plutôt une temporalité donnée a priori, puisqu'elle était donnée par le titre et par le sujet de l'exposition, avec cette illusion que ce cadre temporel étant fini ou limité à 365 jours, il nous serait peut-être possible d'en saisir l'ensemble, la totalité, et de connaître l'ensemble des productions, des inventions, des événements et des œuvres de l'année 1917. Évidemment, c'était une utopie parfaite, nous en sommes rapidement rendus compte, mais nous avons essayé au maximum de saisir tout ce qui avait pu se passer cette année-là. La temporalité étant donnée, il nous fallait également un cadre géographique, et à l'inverse de ce cadre temporel très restreint, nous avons voulu que le cadre géographique soit le plus large possible. Cadre temporel, j'y reviens simplement un instant pour dire que par rapport à d'autres expositions consacrées pardon, à une année dont parlera Laurent tout à l'heure, nous avons toujours tenu à ce que celle-ci soit très stricte dans son propos, en se limitant uniquement à des œuvres réalisées stricto sensu en 1917, avec naturellement, comme toujours, quelques exceptions, et notamment des œuvres qui avaient été exposées pour la première fois en 1917. Je citerai simplement La Princesse X de Brancusi comme un exemple de ce cas de figure. Le cadre temporel géographique étant défini, nous avions un espace-temps qui constituait notre cadre de réflexion, qui nous permettait d'interroger la création artistique en temps de guerre et de voir ce que pouvait représenter une année dans l'histoire et dans l'histoire de l'art. À ce cadre spatio-temporel s'ajoutait notre souhait d'ouvrir le propos à l'ensemble des champs de la création, le plus largement possible. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais m'arrêter sur, bien sûr, les intentions de cette exposition, et tout d'abord, en vous montrant l'affiche de l'exposition, rappeler qu'un des enjeux, évidemment, était de montrer 1917 en 2012, et cette affiche, et plus largement l'identité graphique de l'exposition conçue par Aurore Janin et Laurent Pinon, est certainement un des exemples de cette inscription dans le contemporain, puisque cette identité graphique a été évidemment créée au moment de l'exposition, mais à partir de ce motif qu'on voit ici, donc des motifs de bateau camouflé de 1917. L'intention principale de l'exposition était donc d'apporter aux visiteurs un panorama international de la création en 1917 qui aille du mondial au local, pour le dire vite, avec à la fois, par exemple, un plan horaire de train argentin et des photographies de la gare de Metz, allant également du chef-d'œuvre, là encore, gros mot que nous avons étudié lors de l'exposition inaugurale, mais pour le dire vite, du chef-d'œuvre à la carte postale, et bien sûr, comme le disait Philippe Dagen, des beaux-arts à la guerre et au quotidien, avec donc cet assemblage d'objets et de documents variés au sein de l'exposition. La pluridisciplinarité, donc, dont on parle beaucoup, avait ici une réelle importance, avec un rôle extrêmement essentiel des documents, de l'écrit, avec ce mélange donc, et cette juxtaposition qui faisait l'exposition. Deuxième point, Philippe Dagen en a parlé également, cette notion de contexte qui était évidemment au cœur du sujet. Nous avons essayé de montrer cette présence inévitable d'un contexte avec l'idée que les artistes proches ou éloignés de tous les différents événements qui pouvaient intervenir à ce moment-là étaient confrontés d'une manière ou d'une autre à ce contexte et qu'ils ne pouvaient pas s'en affranchir ou s'en abstraire. Le but, donc, un des buts de l'exposition était de montrer des créations contemporaines les unes des autres, mais aussi d'événements historiques, et de montrer cette simultanéité, cette instantané et la présence toujours plus ou moins évidente de ce contexte. Notre point, évidemment, de l'exposition était de donner à voir donc à la fois la profusion et la diversité de cette création au sens le plus large, en ménageant donc pour le visiteur des surprises, des découvertes, des redécouvertes. Donc, je citerai à la fois donc l'exemple de ce char FT17, donc le char Renault, habituellement donc présenté dans la cour d'honneur des Invalides et conservé par le musée de l'armée qui nous l'avait prêté de manière exceptionnelle et qui visait un peu à déjouer les attentes des visiteurs qui, en arrivant au centre Pompidou-Metz, pouvaient s'attendre plutôt à découvrir une exposition d'art et qui était accueillie donc par ce char. Et à l'inverse, donc une fois conforté dans cette idée que l'exposition serait peut-être un peu martiale, arriver dans la première salle de l'exposition et découvrir évidemment des tableaux sur les murs. Autre découverte ou redécouverte, je citerai donc quelques artistes présents dans l'exposition qui ont trouvé peut-être pour la première fois en France leur public, notamment donc les Britanniques Nevinson, Nash et Orpen, mais aussi on en a pas mal parlé dans la presse et dans les critiques de l'exposition, donc l'Autrichien Egerlins et encore Vallotton, qui en tout cas pour cette partie de son œuvre a été redécouvert et très apprécié. L'idée donc était de satisfaire à la fois le novice, l'amateur ou le spécialiste en établissant au sein même du parcours plusieurs niveaux possibles de lecture et de visite, notamment en montrant ou en remontrant des œuvres célèbres, mais dans un contexte nouveau. Et je citerai donc notamment la fontaine de Marcel Duchamp, dont beaucoup de visiteurs se sont étonnés de la proximité temporelle avec l'entrée en guerre des États-Unis, notamment, puisqu'à quelques jours près, il y avait une coïncidence parfaite entre le vote par le Congrès de l'entrée en guerre des États-Unis et la non-présentation de la fontaine à New York. Alors la question, évidemment, de exposition d'art ou d'histoire nous a été souvent posée pendant la préparation de l'exposition. Et évidemment, comme le signifiait Philippe Dagen, c'est une exposition d'art, d'histoire et d'histoire de l'art, avec le souhait donc de convoquer l'ensemble des domaines pour montrer cette imbrication entre tout ce qui pouvait se passer en 1917. Et ce mélange ou cette juxtaposition était, à notre avis, d'autant plus juste pour cette année 1917 qu'on se trouve vraiment à une période de porosité entre les disciplines, d'interpénétration entre les différents domaines, avec des artistes au service de la médecine, donc des sculpteurs travaillant pour des prothèses ou des reconstructions de visages, des peintres évidemment et des décorateurs engagés dans les sections de camouflage, et à l'inverse des soldats devenus créateurs, donc artistes, artisans d'art ou artisans, avec donc ce phénomène de l'art des tranchées, des artistes anonymes et des artistes célèbres réunis par des pratiques identiques, et notamment on peut citer André Derain, dont on pense qu'il a fait de l'art des tranchées avec des objets qui peut-être se retrouvent parmi d'autres anonymes. Et cette coïncidence entre des productions modestes contraintes par des conditions de création difficiles au moment où Dada, de son côté, prétend abolir la hiérarchie entre les disciplines et les types d'objets. Cette interpénétration et cette porosité apparaissaient donc dans l'accrochage de l'exposition, où on pouvait retrouver au sein d'une même salle des objets qui relevaient de registres totalement différents. Un des objectifs de l'exposition était donc de déjouer les pièges de 1917, de regarder 1917 95 ans plus tard avec cette connaissance qu'on en avait à ce jour. Et je fais référence à l'exposition « Voir, ne pas voir la guerre » qui a eu lieu en 2001 au Musée d'histoire contemporaine BDIC, donc la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Et cette expression me paraît assez juste. Et donc la question était de voir ou ne pas voir 1917 en tentant d'exposer ce qui voulait se cacher à ce moment-là, notamment exposer le camouflage, relever ce paradoxe souvent signalé d'avoir confié à des artistes un travail de camouflage, donc de dissimulation du réel, d'avoir confié à Apollinaire un travail de censeur, et donc essayer dans cette exposition de dévoiler ou de démasquer 1917. Et je reviens donc sur cette critique de la question des impasses ou de certains sujets éludés dans l'exposition, en insistant simplement sur le fait que l'objet exposition a cette spécificité de ne pas pouvoir tout montrer, de ne pouvoir montrer que ce qui est exposable. Et c'est la différence essentielle entre l'exposition et le catalogue. Et je citerai donc un exemple presque évident, qui est par exemple que dans l'exposition 1917, nous ne pouvions pas montrer les artistes qui n'avaient pas produit d'œuvres en 1917, et notamment André Derain, dont la particularité est de ne pas avoir produit d'œuvre à cette période, si ce n'est des photographies. Évidemment, le problème de l'exposition, c'est qu'on peut montrer une absence que par une absence. Et du coup, elle est difficile à relever pour un visiteur qui ne voit simplement rien. puisque rien n'est montré. Donc c'est cette difficulté qui a fait aussi, bien sûr, toute l'importance du catalogue que nous avons imaginé en complémentarité, comme souvent, avec l'exposition, et qui nous a permis d'aborder certains sujets qui, pour des raisons intrinsèques, ne pouvaient pas figurer dans l'exposition. Pour mettre en œuvre ces intentions, nous avons évidemment conçu un parcours dont je vais montrer quelques images ici. Très rapidement, la chronologie a été abandonnée comme fil conducteur de ce parcours, notamment pour des raisons assez matérielles de datation précise des œuvres et de datation relative les unes par rapport aux autres, qui nous empêchaient de mettre en place ce parcours chronologique. Et nous voulions maintenir cette idée de l'instantané, éviter une approche linéaire de ce sujet, en provoquant et en rendant évident et visible des hasards de date, des simultanéités, des coïncidences, des rencontres. Et pour reprendre l'expression désormais consacrée de Jean-Jacques Lebel, des concomitances énigmatiques. En revanche, le critère diachronique est resté présent dans le catalogue, j'en parlerai tout à l'heure, avec donc la dernière partie du catalogue constituée comme un almanach, donc du 1er janvier au 31 décembre 1917. Mais pour l'exposition, nous avons privilégié un parcours thématique. L'exposition est répartie dans deux espaces du bâtiment du Centre Pompidou-Metz, la galerie 1, dont on voit ici le plan, et la grande nef. Nous avons mis en place deux axes principaux. Dans cette première partie, la question de la distance des artistes par rapport aux événements en 1917. Je vais donc montrer quelques images. Et dans la seconde partie, les notions de destruction, de reconstruction et de création. Sachant qu'au-delà de ce double parcours, était présent dans l'exposition des liens invisibles avec donc des artistes qu'on pouvait retrouver en plusieurs lieux de l'exposition, des liens cause-conséquence d'une salle ou d'une section à l'autre, etc. Et puis, parmi ces artistes qu'on pouvait retrouver à plusieurs reprises, il y avait donc ces sortes de figures tutélaires de l'année 1917, comme Apollinaire, Dix, Matisse ou Picasso, mais aussi Vallotton encore, qui étaient comme des guides qu'on croisait comme des repères au fil de l'exposition à diverses reprises. Alors rapidement, sur cette première partie, elle relevait d'une sorte de typologie ouverte qui transparaissait en filigrane dans le parcours. Nous n'avions évidemment pas souhaité enfermer les artistes dans des catégories. Néanmoins, chaque artiste exposé avait fait l'objet d'une étude et de recherche sur sa nationalité en 1917, son âge, les lieux où il se trouvait, leur activité, leurs éventuels événements marquants à titre privé ou professionnel, s'ils étaient mobilisés ou non, l'ensemble d'une sorte de carte d'identité pour chacun des artistes exposés, qui sous-tendait en fait le parcours, mais qui n'apparaissait pas de manière évidente au sein de l'exposition. Le parcours, quant à lui, procédait donc d'une logique d'éloignement progressif, géographique, mais surtout symbolique et intellectuel, qui permettait aux visiteurs de remonter un temps imaginaire et une logique de mort dont on s'éloignait peu à peu, donc en commençant par une salle très oppressante et dense sur la question de la mort et de la mort de masse, et en allant peu à peu vers des environnements plus éloignés, plus légers peut-être, avec également un allègement peut-être de l'accrochage et des espaces qui s'ouvraient et qui s'agrandissaient. L'idée donc était d'éviter toute linéarité ou tout lissage du sujet, mais de plutôt présenter une sorte de constellation de la création avec l'idée d'une multipolarité, évidemment, et d'un parcours donc à multiples entrées. Dans la seconde partie, étaient donc abordées les questions de destruction, donc à la fois psychique, physique, du corps, du visage, du paysage, de l'architecture, avec également les tentatives de reconstruction et évidemment la création, avec au cœur les enjeux de la dissimulation, de la protection, du travestissement. Et la question du théâtre et de la mise en scène était évidemment omniprésente dans ce parcours, avec la présentation en quasi fin de parcours du rideau de scènes de parade. Mais ces thématiques étaient également présentes tout au long du parcours, y compris dans la première partie, avec notamment l'ambiguïté, bombardement, feu d'artifice, qu'on retrouvait dans la deuxième salle de l'exposition. On aurait pu considérer que... Enfin, on a parfois considéré que la première partie de l'exposition était une sorte de prérequis pour la visite de la seconde partie, qui était plus expérimentale peut-être dans sa scénographie, je vais y revenir à l'instant, et dans son accrochage avec donc des juxtapositions parfois et des dialogues parfois audacieux entre des objets de nature ou de registres différents. Je vais revenir plus précisément sur la scénographie qui, évidemment, a accompagné la conception de ce parcours et a permis donc sa matérialisation dans les espaces du Centre Pompidou-Metz. Donc, scénographie conçue par Didier Blin, auquel nous avions fait appel pour cette exposition. L'enjeu principal pour la scénographie était à la fois le nombre et la variété des objets présentés, et donc de concevoir des aménagements qui permettaient d'accueillir tous ces types d'œuvres et d'objets. L'autre enjeu pour le scénographe par rapport au sujet de l'exposition était d'éviter bien sûr le côté littéral d'une interprétation du sujet, pour ne pas donc tomber dans la reconstitution un peu lourde et littérale d'un environnement qui rappellerait des tranchées ou autres. Donc, je vais simplement remontrer le plan dans cette galerie 1. Le visiteur était donc plongé au cœur de cette folie créatrice de l'année 1917, et les thèmes du parcours étaient spatialement envisagés comme des territoires, donc avec cette idée multipolaire de géographie complexe, mouvante, avec notamment donc l'importance de cette ligne brisée qui traversait la longueur de la galerie et qui à la fois ménageait des espaces, donc ces salles thématiques plus ou moins ouvertes, plus ou moins grandes, avec des espaces plus intimes et des espaces plus ouverts et à multiples entrées. Et puis dans la partie centrale, cette sorte de fil documentaire avec donc les parties gris clair qui représentaient donc les vitrines verticales et ce couloir documentaire qui permettait de montrer l'ensemble des documents qui avaient été sélectionnés pour dialoguer et pour faire partie intégrante du parcours. Et c'était un des points très importants de l'exposition, donc cette question de la monstration du document, avec donc un ensemble, notamment dans cette première partie, de vitrines verticales qui permettaient d'avoir un face-à-face réel entre les documents et les autres œuvres. Dans la seconde partie, donc avec cette grande nef, le visiteur était en immersion totale avec cette double spirale dynamique qui entraînait donc un mouvement d'entraînement et d'accélération et qui surtout permettait d'avoir une sorte de continuum dans l'accrochage et dans la déambulation, de ne pas partitionner le parcours en salle ou en section très stricte, mais plutôt d'avoir donc cette ouverture et cette déambulation plus libre ou en tout cas plus fluide d'une section à l'autre. Voilà, quelques spirales de 1917 qui avaient fait mûrir cette idée pour la scénographie. Et puis, pour terminer, je voudrais simplement dire quelques mots sur au-delà de l'exposition, puisque nous ne l'avons pas justement pensé comme au-delà, mais comme formant un tout, donc l'ensemble exposition, catalogue et colloque sur 1917, qui nous permettait de raconter une histoire à plusieurs focales et qui nous permettait, en profitant des forces et des qualités de chaque forme, de raconter comme une. De diversifier les points de vue, les approches et de changer de prisme pour raconter plusieurs facettes d'une même histoire. J'ai longuement parlé de l'exposition. Je voulais simplement dire un mot du catalogue qui est constitué, puisque contrairement à l'exposition, lui, il existe toujours, donc qui est constitué de 3 parties. Pour un total donc, de 592 pages, 3 parties. Une première partie donc, constituée de 7 essais thématiques sur évidemment 1917. Une deuxième partie dont on voit ici une double page qui s'appelle 1917 de A à Z, avec donc, un ensemble de 220 notices courtes qui s'arrête donc sur des artistes, des sujets, des disciplines, des lieux, des événements qui ont fait, entre guillemets, l'année 1917. Et puis une troisième partie, du 1er janvier au 31 décembre, avec donc l'ensemble des jours de l'année traités sur une demi-page, une page ou une double page, avec à chaque fois une ou une page intérieure d'un journal international, un éphéméride avec donc quelques informations, notamment météorologiques, que nous avons recueillies sur l'année 1917, et puis une chronologie, là encore bien sûr pluridisciplinaire, donc à la fois militaire, politique et culturelle, concernant la journée. Et cette triple approche au sein du catalogue nous permettait d'aborder le sujet par petites touches, nombreuses petites touches, mais par une approche un peu impressionniste ou pointilliste, d'essayer de multiplier les points de vue pour essayer d'avoir une vision qui soit la plus juste possible de l'année 1917. Et c'est là-dessus que je conclurai, puisqu'on a cité des chiffres, on a souvent dit que c'était une exposition qui présentait beaucoup de choses, qui était imposante par sa surface, le nombre d'œuvres qui étaient présentées, etc. Néanmoins, je pense que le cœur et l'objectif principal de cette exposition, c'était bien sûr au moyen de tout ce déploiement d'œuvres et d'énergie, d'essayer de montrer d'une part que la création avait résisté, persisté dans cette période qui était une des plus dures du XXe siècle et au-delà. Et finalement, l'objectif, je pense, de cette exposition, c'était de transmettre aux visiteurs le goût de 1917. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, parce que le goût était peut-être un peu amer, mais en tout cas l'esprit ou l'idée de 1917, donc par toutes ces petites touches, tout en gardant évidemment tout le mystère et la complexité des œuvres. Et je pense que l'objectif ultime de cette exposition, si on peut considérer qu'elle a été une réussite, c'est tout simplement si elle a réussi à émouvoir et à toucher le visiteur. Et en ça, je crois qu'on a eu plusieurs témoignages de cette émotion suscitée donc par cette présentation de 1917. Merci.